There is no alternative.
Quel est vraiment le problème?
Qu'ils fassent des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
You'd rather have the poor poor, provided the rich are less rich.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce second numéro de There is no alternative. Aujourd'hui, nous allons vous parler du chômage. Donc le chômage, vous en avez sans doute déjà entendu parler, même si vous n'êtes pas ou peut-être pas encore concerné. Donc Cyril, tu vas nous parler tout d'abord.
Du plus intéressant, les politiques de lutte contre le chômage. Bonjour à tous. Les politiques, voilà, mises en place par les pouvoirs publics pour s'en sortir et résoudre ce fléau économique et social qu'est le chômage.
Donc ensuite, Gaëtan...
Le problème de la résolution du fléau du chômage passe également par la prise en compte statistique du chômage. Je vais essayer de vous montrer dans quelle mesure il est difficile de capturer cette réalité sociale qu'est le chômage par les statistiques.
Voilà, et puis ensuite Gaëtan va nous rappeler aussi rapidement peut-être un petit côté un peu plus théorique des théories classiques du chômage. Et moi je vous mentionnerai un article de Mortensen et Pissarides très intéressant qui est maintenant le paradigme économique dominant en ce qui concerne l'étude du chômage dans la recherche.
Et nous souhaitons la bienvenue à Gaëtan qui nous rejoint dans l'émission.
Merci.
Bienvenue Gaëtan.
Nous sommes très critiqués par l'opposition. Je reconnais que nous-mêmes, quand nous étions dans l'opposition, on s'est tourné vers M. Giscard d'Estaing et Barre et on leur disait la même chose. Mais j'assume ce qui se passe.
À propos du chômage, tout a été essayé.
Alors, pour commencer, comme je le disais en introduction, le chômage est l'un des principaux maux économiques et sociaux des sociétés occidentales contemporaines. Et chacun le voit au quotidien, il accapare les débats politiques, les propositions des partis politiques. Et bien souvent, les dirigeants des États sont jugés à l'aune de leurs résultats en matière de lutte contre le chômage. Cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Nous, aujourd'hui, qui avons entre 20 et 25 ans, on a toujours connu un chômage persistant qui était autour de 11% dans les années 90, qui a un petit peu redescendu vers 9% au tournant du siècle, les années Jospin, et qui est reparti à la hausse, bien sûr, avec la crise de 2009.
Alors, tout d'abord, donc, quand et pourquoi est-ce que le chômage est finalement devenu un problème en France ? Parce qu'on en parle tellement dans
Excellente question, parce que justement, on a l'air de croire que c'est un problème inné et que le chômage a toujours été un problème. Un petit rappel historique, durant les 30 Glorieuses, le taux de chômage était extrêmement faible, très proche de ce qu'on appelle le taux de chômage structurel, qui est de 3% et qui correspond en fait à la mobilité professionnelle, aux gens qui quittent un travail pour en trouver un autre.
Vont en retrouver un tout de suite en fait.
Oui, c'est ça, dans quelques mois.
Dans un délai assez faible.
Voilà. Et du coup, ils sont comptabilisés comme chômeurs, mais c'est pour une durée très courte et ils n'auront aucun problème à retrouver du travail. C'est ce qu'on appelle la situation de plein emploi. Alors c'était dû au fait, bien sûr, que la croissance était tirée à la fois par l'innovation et par la consommation. Par l'innovation, car les pays européens avaient à se reconstruire après la guerre, qu'ils rattrapaient leur retard technologique avec les USA, et surtout que le pétrole était extrêmement bon marché, donc on se développait à tout va, la croissance économique atteignait aisément les 5-6% par an, ce qui est très loin de ce qui correspond à peu près à la croissance chinoise actuelle. La consommation était également très importante car on entrait justement dans ce qu'on appelle la société de consommation et les ménages qui avaient beaucoup souffert durant la guerre étaient mus par le désir de consommer énormément. Ils achetaient de l'électroménager, des automobiles, etc. Et de plus, il y avait une très forte augmentation démographique, c'était le baby boom. Les gens avaient énormément d'enfants, la politique nataliste était très vigoureuse et les ménages étaient amenés à beaucoup consommer. Alors, durant les 30 Glorieuses, l'économie, elle s'est également internationalisée et les biens manufacturés ainsi que les services ont commencé à s'échanger aux quatre coins de la planète. Les États aussi se sont de plus en plus financés sur les marchés financiers et les économies des pays développés ont été donc de plus en plus liées de manière très profonde. Et les courbes du chômage, par conséquent, tendent un petit peu à se rejoindre entre tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les USA, le Japon, les pays de l'Union européenne.
Donc finalement, ce n'est pas un problème juste pour la France, c'est au niveau mondial
Je vous invite à faire, si vous regardez les courbes d'évolution du chômage, elles sont quasiment parallèles. La France présente malgré tout, pour contredire ce constat, une petite caractéristique, c'est que l'emploi industriel a connu une crise particulièrement forte. On a perdu 1 million d'emplois industriels en 20 ans. C'est sans doute les méfaits un petit peu de l'idéologie qui était dans l'air du temps à l'époque et qui a été véhiculée par l'essayiste américain Jeremy Rifkin dans son ouvrage « La fin du travail » qui imaginait une société post-industrielle où ce seraient les services qui tireraient la croissance et où en fait il n'y aurait plus de travail manufacturier.
Mais alors du coup, en fait, à l'heure actuelle, qui est concerné par le chômage? Quel est le profil en quelque sorte des chômeurs?
Alors ça aussi, on le voit un petit peu autour de nous. Les plus concernés, à l'évidence, ce sont les jeunes. En France, 30% des jeunes sont au chômage. Et les seniors également. Alors on dit qu'il faut avancer l'âge de la retraite, mais bien souvent, autour de 45-50 ans, les seniors, malgré leur expérience, etc., se font licencier au profit de salariés plus jeunes.
Ou en tout cas, sont un peu marginalisés.
Voilà, ils sont marginalisés dans l'entreprise. Voilà. Hormis les salariés les plus diplômés, qui eux, ben, justement, accèdent à des fonctions de cadre, etc., voilà, les travailleurs sans qualification âgés, bien souvent se font licencier. En plus, la croissance aujourd'hui, elle est tirée par pas mal de PME, par des start-up, vous voyez, par toute l'économie autour d'Internet, des nouvelles technologies. Et ça, les seniors, par définition, sans vouloir leur faire de peine, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent un petit peu moins bien. Voilà, il n'y a qu'à voir nos parents taper sur un ordinateur avec deux doigts pour comprendre que voilà, c'est pas eux qui vont tirer la croissance aujourd'hui. Alors, autre chose, bien sûr, les salariés les moins formés, hein, ça, le diplôme est une vraie protection contre le chômage, car, comme je viens de le dire, l'économie traditionnelle, industrielle, manufacturière, qui emploie des salariés non qualifiés, est actuellement en mue vers une économie à très forte valeur ajoutée et basée sur la technologie, basée sur le high-tech, comme disent les Américains.
Donc pour tous les étudiants qui nous écoutent, il y a encore un peu d'espoir, malgré tout.
Il y a de l'espoir, mais bosser dur, ce sera au prix de nombreuses heures dans la bibliothèque que vous pourrez participer à cette fabuleuse aventure de la croissance économique. Alors, je voulais aussi souligner le fait qu'il y a des variations régionales en France. Les plus forts taux de chômage de très très loin s'observent en Outre-mer. 33% des gens, et là je ne parle pas seulement des jeunes, sont au chômage à l'île de la Réunion et 30% en Guyane. Ça s'explique par le fait que l'emploi industriel y est très très faible et que l'accroissement démographique y est beaucoup plus important. Donc il y a beaucoup trop d'actifs pour le nombre d'emplois disponibles, c'est tout simple. En métropole, les taux les plus forts se retrouvent dans les régions industrielles et très peuplées qui ont connu une crise, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine, qui ont un taux de chômage actuel de 13-12%. Les régions également où il y a le plus de jeunes, en Languedoc, 14% des gens sont au chômage. Les taux les plus faibles sont ceux où l'industrie est la moins importante dans l'économie, car justement ce sont des régions qui sont moins sensibles aux chocs conjoncturels. Le Limousin, par exemple, ou le Pays de la Loire ont un taux de chômage d'à peu près 8,5%, ce qui est quand même inférieur à la moyenne nationale, qui est à peu près de 10,5%.
Oui, mais alors après ces constats, alors quel genre de politique peut-on envisager pour lutter contre le chômage et envisager une réduction du chômage?
Alors, il y a plusieurs types de mesures que l'on peut envisager. Il y a d'abord un moyen institutionnel pérenne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, vous l'aurez tous deviné, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, c'est une concentration qui a eu lieu sous la volonté de Nicolas Sarkozy, des organismes qui versent les allocations chômage et aussi de l'organisme qui vous aide à retrouver un emploi. Donc, Pôle emploi, son efficacité est discutée parce que de plus en plus, les conseillers Pôle emploi sont surchargés de personnes à traiter. En moyenne, un conseiller a 200 personnes à gérer, ce qui est à l'évidence beaucoup trop. Et on le constate, bon, Pôle emploi a une difficulté à recaser tous les chômeurs qui se présentent à lui.
Mais c'est vrai que ça, c'est aussi un problème quand même qui résulte du fait que le chômage augmente beaucoup. Plus il y a de chômeurs, plus c'est difficile à gérer. Donc c'est pas forcément peut-être non plus lié au défaut de Pôle emploi en soi. Si
c'est sûr. Alors oui, mais si on observe d'autres pays proche de nous, je veux dire, je ne parle pas de pays dont l'économie est radicalement différente, d'autres pays avec les mêmes moyens, voire moins de moyens, arrivent à faire mieux. Je ne sais pas, voilà, c'est enfoncer les portes ouvertes que de vanter le modèle des pays nordiques, mais le Danemark, par exemple, a un système d'aide de retour à l'emploi qui est particulièrement performant. Les conseillers gèrent beaucoup moins de personnes. Il y a des obligations de suivre des formations, etc. Enfin, voilà.
Il y a d'autres inconvénients quand même.
Il y a d'autres inconvénients sur lesquels nous reviendrons peut-être un jour dans une prochaine
oui, c'est
émission.
C'est pas non plus si idéal que ça.
Voilà.
C'est très idéalisé, mais il y a quand même des défauts aussi.
Il y aurait matière à disserter de longues heures sur la face noire des pays nordiques. Mais un dernier exemple pour enfoncer Pôle emploi. Pôle emploi a organisé par exemple des formations relooking pour les femmes en recherche de travail, c'est-à-dire des séances avec des maquilleuses, etc., qui viennent pour rendre les femmes plus belles
politiquement correct. Tout
c'est
ça.
Politiquement vraiment, vraiment incorrect. Et je ne sais pas qui a eu l'idée de ça à Pôle emploi, mais je doute qu'il ait eu une promotion par la suite. Alors ensuite, il y a tout un arsenal de mesures politique dont l'efficacité a varié. On peut sommairement classer les mesures de droite et les mesures de gauche. les mesures de droite, c'est des aides financières qui sont censées fonctionner comme un petit aiguillon et piquer les chômeurs pour les inciter à rechercher un emploi. La PPE, la prime pour l'emploi, ou le plus récemment le RSA, qui est un revenu en contrepartie d'une recherche d'emploi et d'une activité. Également, les mesures de droite, c'est réformer le contrat de travail pour flexibiliser le marché du travail.
Ça, on en parlera
ainsi,
après.
Par effet d'emballement,
provoquer... On parlera un peu des théories du chômage.
Voilà. La gauche a une politique différente, c'est plus par les emplois aidés que ça fonctionne. Les emplois, ils étaient nommés emplois jeunes sous Jospin, et ils s'appellent désormais les emplois d'avenir, mais c'est la même chose. C'est une exonération de cotisations sociales le plus souvent, afin que les entreprises ou les administrations publiques puissent embaucher à moindre coût des salariés. À long terme, je vous laisse en parler, mais il y a plusieurs chantiers à mener. Améliorer la formation professionnelle pour aller vers plus de mobilité dans le marché du travail, favoriser les relocalisations d'entreprises également, même s'il y a bien plus qu'on ne croit finalement. Hein. C'est souvent, on croit souvent que c'est dans un sens. Et
disons que ça dépend des secteurs.
Ça dépend des secteurs. Voilà, la recherche et développement, grâce au crédit impôt recherche, sur lequel nous reviendrons peut-être un jour également, rend la France particulièrement attractive en matière de recherche, d'innovation. Après, c'est plus traditionnellement ce qu'on reproche, c'est le coût du travail qui est un peu plus cher en comparaison avec nos amis de l'OCDE. Alors, la meilleure solution, et là je vais te laisser la parole, Gaëtan, ça demeure quand même le bidonnage de statistiques pur et simple. En Allemagne, ils ont trouvé la meilleure des solutions pour faire baisser le chômage. C'est en fait de ne pas déclarer en tant que chômeur des centaines de milliers de travailleurs qui ont ce qu'on appelle des mini-jobs. Et alors, c'est parfois des étudiants ou des femmes qui ne cherchent pas à travailler, mais c'est parfois des gens qui ne dépendent que de ça pour vivre. Et c'est des emplois qui sont parfois de 5 heures par semaine, autant dire quasiment rien.
Oui, puis en fait, ton dernier point, Cyril, là, soulève un problème important qui est en fait que quelle que soit la politique envisagée pour lutter contre le chômage, on ne saurait envisager de mesures qui ne s'appuieraient pas sur des données statistiques solides.
Ah oui.
Et en fait, s'agissant du chômage, il y a une difficulté peut-être supplémentaire à celle que l'on rencontre lorsqu'il s'agit de mesurer la richesse d'un pays, le PIB ou d'autres données qui sont plus concrètes, c'est qu'en fait, le chômage est une réalité sociale qui a des implications dans la vie des gens qui le touchent.
C'est pour ça qu'il est aussi médiatisé, finalement.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est pour ça.
On connaît les gens autour de nous, c'est ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est pas des phénomènes économiques abstraits.
Voilà, c'est ça, et puis c'est donc le problème de savoir ce qu'il y a en fait derrière les chiffres du chômage dont on parle tant aux informations ou dans les journaux, de voir ce qu'il y a derrière ce fameux taux de chômage en fait qu'on a un peu sacralisé ces dernières années. Donc en fait, si l'on prend le chômage tel qu'il est défini par le Bureau international du travail lorsqu'il construit sa mesure du taux de chômage, on voit que pour être comptabilisé comme chômeur, il faut tout à la fois ne pas avoir travaillé durant une semaine de référence, être disponible dans un délai de 2 semaines donc pour un emploi qui se présenterait, et avoir entrepris des démarches de recherche d'emploi active au cours des 4 semaines précédant la semaine de référence. Donc, en fait, une définition assez restrictive qui, d'évidence, exclut bon nombre de situations qui, pourtant, s'apparentent dans la vie de tous les jours à ce qu'on s'imagine être la situation d'un chômeur.
Ouais.
D'où, en fait, une notion qui est apparue dans les années 80, qui est la notion de halo du chômage. C'est-à-dire cette idée que, autour du taux de chômage considéré comme officiel, existe, de façon un peu moins évidente, de façon un peu plus floue, un certain nombre de situations correspondant de fait à une situation de chômage, mais n'étant pas considérées dans les chiffres comme telles.
D'accord, un semi-chômage.
C'est ça, en fait. Des situations de quasi-chômage, en fait, qui sont parfois liées à un découragement, notamment de personnes ayant atteint un certain âge qui, par exemple, se voyant très faiblement employables au regard des critères habituellement retenus, ont décidé de quitter ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire la population de ceux qui recherchent activement un travail et qui sont donc retombés dans la case des inactifs, mais qui, pour autant, ne sont pas satisfaits de leur situation, quoi, qui désireraient évidemment travailler s'ils en avaient la possibilité.
Oui, car il faut le rappeler... on le rappelle, la population active comprend les chômeurs. On a toujours tendance à croire que les actifs sont ceux qui ont un travail. Non, les actifs sont ceux qui ont un emploi et ceux qui en recherchent un.
Oui, c'est tout à fait ça. Et même parmi la population active, donc employée, c'est-à-dire pour le coup des personnes qui ne sont pas du tout considérées comme chômeurs, il y a des situations qui s'apparentent de très près aux situations de chômage. Et on peut notamment penser à ce qu'on appelle le sous-emploi, qui est en fait une situation, donc selon le Bureau international du travail, où une personne est employée, mais où elle souhaiterait pouvoir travailler plus, c'est-à-dire c'est les situations que l'on appelle traditionnellement le temps partiel et qui, dans les statistiques, touchent particulièrement les femmes, qui sont généralement sous-employées par rapport au volume horaire de travail qu'elles souhaiteraient pouvoir fournir.
Vous disiez, les femmes sont toujours un petit peu considérées comme un salaire d'appoint, en quelque sorte par rapport au salaire du mari, quoi. C'est...
Oui, il y a un peu de cette idée, effectivement, et il y a aussi un second aspect du point de vue des femmes, qui est la difficulté parfois qu'ont certaines mères célibataires, bon là on rejoint plutôt des analyses sociologiques, à la fois à associer leur devoir de mère donc, et de remplir les conditions nécessaires à un emploi à temps plein. Donc on voit en fait que bien souvent les frontières entre chômage et inactivité sont assez poreuses, c'est-à-dire que souvent selon la conjoncture, des inactifs voyant par exemple que la croissance a repris et donc que les choses vont bien vont redevenir actifs, et c'est-à-dire vont regagner de l'espoir dans leur possibilité de trouver un emploi.
Et finalement, vont se remettre à chercher du travail.
Voilà, vont se remettre à chercher un travail. Et à l'inverse, donc, en situation de détresse économique, des gens donc, vont abandonner la recherche d'emploi et donc sombrer dans l'inactivité. Et
ce qui, paradoxalement, finalement, fait baisser les chiffres.
C'est ça, en fait.
Quand il y a des mauvaises situations économiques.
C'est tout à fait ça, en fait. Et c'est donc comme cela qu'on aboutit, en fait, à un taux de chômage qui peut augmenter alors même que la conjoncture s'améliore, c'est-à-dire que des emplois sont créés. C'est-à-dire que, à partir du moment où des personnes qui étaient auparavant considérées comme inactives retournent dans la population active dans l'espoir de trouver un emploi, donc à partir du moment où ces personnes recommencent à chercher un emploi, elles vont être considérées à nouveau comme chômeurs, enfin, comme étant des chômeurs,
oui.
Et donc ce qui va faire augmenter le taux de chômage alors même que la situation s'améliore et que bon nombre de personnes retrouvent un emploi. Donc on voit un traitement un peu ambigu du chômage de manière statistique qui laisse à penser qu'il est nécessaire de prendre en compte donc, les analyses menées par les sociologues sur les différentes situations de chômage pour enrichir la compréhension de ce qu'est le chômage et notamment pour enrichir la lutte contre le chômage par les politiques publiques.
Alors, bon, donc du coup, après cette petite exposition des différents problèmes statistiques du chômage, on peut peut-être s'intéresser à un côté plus théorique en ce qui concerne la façon de concevoir le chômage, c'est-à-dire les théories du chômage. Et alors, on a une grande opposition un peu qu'on peut souligner, c'est-à-dire d'un côté les théories classiques, néoclassiques du chômage, et puis d'un autre côté tout un ensemble de théories un peu plus récentes qui ont été mise en place afin d'expliquer un peu tout ce que la théorie précédente finalement n'arrivait pas à expliquer. Donc Gaëtan, peut-être tu peux nous expliquer rapidement le principe vraiment de la théorie néoclassique.
Oui, alors le principe de la théorie néoclassique, c'est un peu toujours le même, c'est un peu imaginer à chaque fois une situation idéale, c'est-à-dire une situation où les marchés fonctionneraient parfaitement, où le facteur travail serait parfaitement mobile, et où donc en fait l'ajustement entre ce qu'on appelle l'offre de travail, c'est-à-dire concrètement les personnes désirant en fait trouver un emploi, donc c'est-à-dire offrant leur travail aux entreprises, et la demande de travail donc se rencontrerait à un niveau qui satisferait tout le monde. Donc en fait, l'analyse néoclassique ou classique, on ne va pas faire de distinction ici, standard, repose sur l'idée d'un arbitrage microéconomique entre travail et loisir, c'est-à-dire que chaque individu est supposé faire un arbitrage entre le temps qu'il désire consacrer au loisir et le temps qu'il désire consacrer au travail.
C'est-à-dire à l'obtention d'un revenu, en fait.
C'est ça, en fait, sur la base du revenu, en fait. Donc, on imagine très bien que plus le revenu que cet individu peut obtenir va être élevé, plus il aura tendance à accorder une place plus importante au temps de travail, puisque celui-ci lui sera plus bénéfique relativement au temps de loisir, en fait.
Oui.
D'où ce qu'on appelle en fait l'offre de travail apparaît évidemment comme étant une fonction croissante, donc lorsqu'il s'agit de formalisation mathématique, du salaire.
Et donc, dans cette conception, en fait, finalement, pour ce qui concerne le chômage lui-même, la manière dont on conçoit le chômage, finalement, si on ne travaille pas, c'est plus ou moins volontaire, puisque c'est pour consacrer son temps au loisir.
Oui, c'est cela. Et puis, en fait, si on représente le marché du travail comme la rencontre d'une offre et d'une demande, cette rencontre se faisant pour un certain niveau de travail et donc à un certain salaire, les personnes qui, pour ce salaire, auront décidé de ne pas aller travailler seront effectivement considérées comme chômeurs, dans la mesure où ils ne travaillent pas, mais comme chômeurs volontaires, puisque c'est d'eux-mêmes qu'ils ont décidé de ne pas rechercher un emploi, dans la mesure où le salaire proposé ne correspond pas à ce qu'on appelle leur salaire de réserve, c'est-à-dire le salaire minimum pour lequel ils décident d'entrer sur le marché du travail.
Alors justement, donc, vous imaginez bien que c'est ce qu'on appelle le réalisme de la théorie économique. Le chômage, d'une manière générale, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et la théorie classique ne permet pas d'expliquer un certain nombre de problèmes. Donc,
Après, il y a aussi la malhonnêteté des économistes néoclassiques qui vont en fait imputer aux syndicats ou aux politiques publiques de salaire minimum des imperfections du marché.
Oui, en fait, on dérègle le marché donc le marché ne peut plus bien fonctionner.
Bon, on voit très bien que c'est des palliatifs à un modèle qui a du mal à se justifier par rapport à la réalité. Mais donc, c'est des palliatifs, mais ça ne saurait effectivement, comme tu le dis, être satisfaisant pour rendre compte justement du chômage.
Exactement. Donc, le problème des théories alternatives du chômage, c'est qu'il y en a beaucoup et donc on ne va pas toutes vous en parler. Mais disons qu'on a commencé à critiquer vraiment cette théorie, ce cadre de base à partir du chômage des années 30 et de Keynes. Bon, c'est quelque chose de très connu, l'équilibre, disons, de sous-emploi. Comment est-ce que dans une économie, on puisse envisager que le marché fonctionnant de manière normale et adéquate, on puisse avoir une situation durable finalement de sous-emploi. Et donc la réponse que Keynes apporte finalement, c'est essentiellement les rigidités salariales.
Oui, c'est ça. Et puis en fait, l'apport principal de Keynes, c'est de considérer aussi non plus le marché du travail comme désincarné du reste de l'économie, mais de le considérer comme en relation avec le marché du bien et service, et que donc les déséquilibres qui auront lieu sur le marché du bien et service vont se répercuter sur le marché du travail. Et c'est donc en fait toute son analyse en termes de demande effective qui va consister à dire qu'il existe un chômage du fait de cette anticipation parfois un peu pessimiste des entrepreneurs qui va faire qu'ils ne vont pas embaucher toute l'offre de travail à un moment donné, qu'il y aura donc des chômeurs qui vont se retrouver en quelque sorte sur la touche du fait des anticipations des entrepreneurs.
Voilà, et donc à partir de là, bon, il y a tout un tas de problèmes que la théorie classique ne permet pas d'expliquer, les équilibres de sous-emploi dont on vient de parler. Plus récemment, il y a une théorie qui a été développée sur cette idée de la coexistence possible d'un chômage et de vacances d'emploi en même temps, c'est-à-dire que non seulement on a un chômage durable qui persiste, mais en plus on a des emplois libres que les gens pourraient prendre. Donc là, c'est vraiment un problème d'appariement en fait entre chômeurs et emploi. Mais aussi, on peut avoir des différentiels de salaire pour les mêmes qualifications, ce qui normalement n'est pas possible dans la théorie classique, puisque justement, si on a une qualification sur le marché du travail, elle vaut tel salaire. C'est un peu ça l'idée. Avant peut-être de vous parler de l'article que j'ai choisi aujourd'hui, il y avait une petite liste que j'ai trouvée sur Wikipédia. Donc voilà
un
ma source.
Un site aux vertus innombrables.
Que je trouvais assez amusante parce que justement, ça donne bien une idée de la manière dont toutes les théories du chômage peuvent fractionner ce concept lui-même central de chômage. Donc voilà les différentes sortes de chômage qui existent. Alors, préparez-vous, voilà la liste. Le chômage volontaire, le chômage involontaire, le chômage d'attente, de recherche ou de prospection, le chômage frictionnel, le chômage de mobilité, le chômage conjoncturel ou chômage cyclique, le chômage saisonnier, le chômage résiduel, le chômage chronique ou chômage durable, le chômage structurel, le chômage classique, le chômage de croissance, le chômage effectif, le chômage apparent ou chômage déguisé, le chômage keynésien, le chômage marxien, le chômage partiel, le chômage technique et le chômage technologique.
Alors voilà, on devrait mettre sur le site tous ces types de chômage. Et en toute honnêteté, vous devrez cocher ce que vous connaissiez et ce que vous ne connaissiez pas. Voilà, c'est un petit jeu pour vous.
Le chômage marxien n'étant pas le fait des aliens. Hein.
Voilà, tout comme le chômage
déguisé.
Celui-là,
je ne connaissais, connaissais pas ce concept du chômage marxien, mais bon, c'est assez amusant. Alors, donc, l'article que j'ai choisi aujourd'hui... Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est très intéressant, mais surtout parce que c'est un article qui a été révolutionnaire dans le champ de la recherche économique sur le chômage. Et c'est devenu vraiment le paradigme maintenant de recherche pour ce qui est d'étudier cette question du chômage. C'est un article de Mortensen et Pissarides qui s'appelle « La création et la destruction d'emplois dans la théorie du chômage ». Donc, en fait, ces deux auteurs sont des chercheurs assez connus, puisqu'ils ont eu un prix d'un institut allemand qui s'appelle l'Institut ISA en 2005 pour leurs travaux. Et donc, last but not least, le prix Nobel 2010 qu'ils ont eu avec Peter Diamond sur justement leur travail, tout ce qui concerne le job search et les frictions sur le marché du travail. Donc ces auteurs ne se considèrent pas eux-mêmes comme des néo-keynésiens, puisqu'ils n'intègrent pas la... En fait, oui, pour essayer de situer un peu ces auteurs, qui ils sont et dans quel mouvement ils s'intègrent, on pourrait penser qu'ils sont un peu néo-keynésiens dans le sens où ils s'intéressent au chômage involontaire et à un marché du travail qui est imparfait. Ils étudient aussi des équilibres de prix, c'est-à-dire de salaire, qui sont multiples et non pas uniques comme les théories classiques ou néo-classiques. Mais eux-mêmes ne se considèrent pas comme néo-keynésiens. Essentiellement, ils n'intègrent pas non plus la demande des biens comme variable, alors que dans toutes les théories qui se réclament de Keynes, c'est quand même une variable très, très importante. Donc voilà, en quelque sorte, ils sont un peu à part, mais ils ont quand même réussi, en étant à part, à devenir le paradigme dominant de la théorie du chômage. Donc c'est vraiment un succès assez intéressant à constater. Et donc leur idée, c'est finalement, dans le sillage des années 60, qui ont vu se développer des modèles d'appariement, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait, étudier vraiment d'une manière concrète comment les chômeurs vont trouver des emplois et leurs relations avec les emplois qui sont vacants, tout ça. Donc déjà en 1971, il y avait un article de Diamond qui s'appelle « Un modèle d'ajustement des prix » qui a soulevé un paradoxe en fait très intéressant en ce qui concerne justement l'atteinte d'un équilibre n'est plus possible dès qu'il y a un petit temps de recherche d'emploi. Donc on imagine bien que dans la réalité, on ne trouve pas un emploi comme ça automatiquement dès qu'on s'insère sur le marché du travail. Et eux-mêmes... ils ne considèrent plus, Mortensen et Pissarides, donc, ne considèrent plus que l'appariement entre chômeur et emploi est automatique. Ils essayent au contraire d'expliquer cette relation, et ils le font en mettant l'accent à la fois sur des asymétries qui existent entre les employeurs et les employés, qui donc a un impact, en fait, parce que selon l'information que détiennent les uns et les autres, les ajustements sur le marché du travail vont se faire un peu différemment. Et d'une manière générale, alors ça dépend, parce que les employés, sur leurs qualifications, c'est eux qui, en général, ont le plus d'informations. Mais les employeurs peuvent avoir plus d'informations sur la dynamique des emplois sur le marché du travail. Et donc, à ce moment-là, le facteur de l'équilibre de sous-emploi chez eux n'est plus les rigidités sur le salaire, mais plutôt les frictions. On a une information qui est imparfaite, et on a surtout des externalités de recherche d'emploi qu'on ne peut pas internaliser. C'est-à-dire qu'on met du temps à trouver un emploi, ça a un coût, et ce coût-là, c'est assez difficile de l'intégrer dans la recherche d'emploi et l'adéquation entre emploi et chercheur d'emploi.
Oui.
Donc voilà, donc juste pour... En fait, pour faire le lien avec ce qui est assez intéressant, il me semble, c'est-à-dire l'impact en fait que leur théorie peut avoir en termes de politique publique, parce que dès qu'on est dans les questions de chômage, c'est tout de suite des questions très concrètes finalement. Et alors eux, justement, en lisant l'article, on peut se demander quand même, est-ce qu'il y a trop ou pas assez de search, c'est-à-dire la recherche d'emploi des chômeurs. Et eux, leur point de vue n'est pas du tout individualiste, c'est-à-dire que l'effort que fait un agent économique pour... échanger d'une manière générale, en fait, va contribuer à l'efficacité collective. Et donc, dans cette idée, si on a un équilibre décentralisé, c'est-à-dire chacun de son côté cherche son emploi, etc., bon, bah, ce sera peut-être pas forcément le meilleur équilibre qu'on puisse trouver. Et donc là, on pourrait avoir, au contraire, une intervention de l'État qui centralise tout ça. Mais malgré tout, il faut quand même dire que dans le domaine des politiques publiques, bon, c'est quand même un champ qui est en train de se créer autour de leur article. Il y a déjà eu des applications un peu empiriques qui ont été faites, des recherches qui ont été faites, mais voilà, on peut imaginer que ça peut concerner les politiques structurelles de chômage et d'aide à l'emploi pour tout ce qui concerne la qualité des appariements, les conditions de licenciement, les justifications aussi, ouais, de politiques sociales comme l'assurance contre le chômage.
C'est quelque chose d'assez peu développé au final encore aujourd'hui.
Oui, voilà. Enfin, en tout cas, les conséquences vraiment de leur article lui-même dans le domaine des politiques publiques sont peut-être à repenser, justement. Enfin, c'est un des possibilités assez intéressantes. Voilà. Mais on peut quand même dire que leur théorie peut s'appliquer à plein d'autres marchés. C'est pour ça aussi qu'elle a eu beaucoup de succès. C'est-à-dire, dès qu'il y a la recherche d'un bien et d'un service qui implique du temps ou des coûts, enfin du temps et des coûts en général, il y a un ajustement entre la demande et l'offre qui sera aussi long et coûteux. Donc ça marche pour l'immobilier, ça marche pour le crédit, les modèles monétaires, les modèles de business cycle et aussi le marché matrimonial. Donc ça a des applications
absolument,
vraiment très variées. Donc voilà, c'est vraiment un article qui a révolutionné le champ de recherche de l'économie. Et puis, pour les politiques publiques, son impact est un peu à nuancer, mais je pense qu'il faut attendre quelques années et il y aura des choses intéressantes qui vont apparaître, à mon avis, dans son sillage. Donc, pour conclure, on voulait faire un petit point sur l'actualité économique, parce que, justement, on a des petites nouvelles en lien avec notre première émission. Donc, tout d'abord, on vous parlait, bien sûr, de la chasse que fait le fisc à l'évasion fiscale lors de TINA numéro 1. Et, justement, depuis l'été, on a constaté 9500 demandes de régularisation qui ont été déposées auprès du fisc.
Oui, et si je ne me trompe pas, ça fait plus qu'autant que durant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy. En 3 mois a été accompli ce qui n'avait pas été accompli en 5 ans.
Donc un certain succès. Félicitations. Pour l'instant. Félicitations. Par ailleurs, le gouvernement est aussi en train d'envisager une prochaine réforme fiscale, même si pour l'instant, en fait, on lui reproche quand même d'être resté assez vague. On sait juste que Najat Vallaud-Belkacem veut favoriser l'emploi des femmes, mais bon, on ne sait pas beaucoup plus pour l'instant.
Et vous verrez que prochainement, dans notre émission, nous recevrons un invité de marque, en l'occurrence Thomas Piketty, qui s'exprimera justement sur cette question de réforme fiscale. Je vous laisse le suspense, à vous de deviner ce qu'il en pense et ce qu'il pense de la proposition de Najat Vallaud-Belkacem.
Voilà, donc on se retrouve bientôt pour l'interview par Cyril de Thomas Piketty.
Tout à fait, on se donne rendez-vous pour cette interview et je pense qu'il faut la faire à un moment ou donné. Vous avez constaté en nous écoutant aujourd'hui que nous n'avons pas chômé voilà, pour préparer cette émission.
C'est bien la conclusion qui s'impose.
Tout à fait. Travaillez bien pour ceux qui sont en partiel. Merci Gaëtan, merci Aliette.
Merci Cyril. Merci
Cyril. Et à très bientôt. Pour There is no alternative.
There is no alternative.
Quel est vraiment le problème?
Qu'ils fassent des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
You'd rather have the poor, my lord, provided the rich are less rich.
No. C'est la crise.